At the Bank of Antandek, mortgages are on the menu.
I was in the chippy last night and it hit me.
Go on.
We should give all our new mortgage customers £1,000 of spuds.
Potatoes?
Yeah, jackets, roasties, dolphin wars. I mean, what's not to love?
Hey, yeah, we could call it
Mashback. Genius.
Meanwhile, at Santander, they're giving their customers £1,000 cash back on selected first-time buyer mortgages. See what's possible at Santander.
Lending subject to status and criteria. Cashback given on completion and repayable if mortgage closed within 2 years. Offer can be withdrawn. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.
Vous écoutez RMC.
Simone Rovira est avec nous, Paulo Breitner aussi. Salut messieurs.
Bonsoir Nicolas, bonsoir tout le monde.
Salut Paulo. Ah. Salut Simone.
Ciao, bonsoir, bonsoir.
Je crois qu'il y a un décalage de 20 secondes avec Simone ce soir. C'est qui votre 10 ultime? Tiens, Polo, ton 10 ultime, c'est qui?
Bah, Simone, ça me fait 10.
Oh là 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 là. Bah, je ne sais pas. J'ai pas, malheureusement pas eu le temps de tout écouter. Je ne sais pas si vous avez parlé de Gunther Netzer ou d'Overath, par exemple.
En antenne,
on en a parlé. De Mehmet Scholl.
On l'a dit aussi.
Les trois ont été cités.
Qui disait à propos d'Oulionès, qui va nous occuper un petit peu ce soir, le rêve de ma vie, c'est pas compliqué. C'était femme de joueur ou alors chien de Oulionès. Et donc voilà. Et moi, mon 10 ultime, oulala, c'est compliqué. Enfin, je vais vieillir un petit peu. Peut-être que quelque part, c'est Bernd Schuster, bien qu'il était plus 7 que 10, mais ce qu'il faisait au Barça, c'était assez intéressant quand même. Donc voilà, je vais rester sur Schuster, peut-être.
Simone.
Bah, pour moi, c'est Sandro Roberto Baggio. Les seuls 10 de ma jeunesse qui me faisaient vraiment rêver. Et après, il y en a un autre qui, je pense, qui est inconnu à tout le monde, mais j'adorais. C'était Lamberto Zauli du Vicenza.
Ah oui, pointu. Effectivement. Del Piero aussi, on n'a pas évoqué ou très peu.
Ouais, bon, Del Piero, c'est bien sûr.
Del Piero à la Juve, incroyable numéro 10. Et également. Polo, on démarre avec toi.
Juste parce que
tu m'y fais penser.
Mais on aurait pu dire que Agnelli, grand fan de foot évidemment et grand patron historique de la Juve, par rapport à la créativité, avait l'habitude de donner des surnoms à ses numéros 10 et de leur donner des noms de peintres. Tu m'as fait penser avec Del Piero qui était surnommé Pinturicchio.
Pinturic.
Et il donnait voilà, et le 10 avait le droit à son petit nom de peintre, quoi.
Ah ouais.
Artiste, quoi.
Ouais. Et Platini, alors, c'était quoi? Je vous ai collé.
Platini, je ne sais pas s'il avait, il lui est pas venu après de donner le surnom.
Ah ouais.
Parce sans Platini, c'était tellement.
Baggio, c'était
ils avaient tellement de relations de père à fils avec Agnelli.
La Divine Comédie. Polo.
Oui.
Quel héritage va laisser Lyonès au Bayern Munich? Voilà, président depuis 2009, il va tirer sa révérence. Je rappelle son palmarès quand même, 8 titres de champion, 8 Bundesliga, 5 Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions en 2013 et 3 finales en Ligue des Champions.
Ça, c'est lorsqu'il est manager, parce qu'en fait, lorsqu'il ne faut pas oublier le joueur qu'il a été aussi et qui est important dans sa carrière,
oui.
À 22 ans, il a tout raflé quand même. S'il est déjà champion du monde, champion d'Europe, la Ligue des Champions, enfin, Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque avec le Bayern, les titres évidemment nationaux. Donc, c'est quelqu'un. Alors, le bilan, c'est pas compliqué. Depuis 48 heures, vous êtes en Allemagne, on ne parle que d'Uli Hoeneß, qui va donc abandonner son poste de président de l'association, en fait, Bayern, oui. En Allemagne. Ça va faire 50 ans lorsqu'on ajoute manager plus joueur, avec tous les postes qu'il a occupés. C'est pas compliqué, c'est ce qu'on appelle un bâtisseur, c'est un mareur, en la traduction littérale, c'est un fabricant, un faiseur, en fait, c'est le créateur, en fait, du football moderne et de toute la Bundesliga, en fait. Il représente la Bundesliga. Je dis toujours amicalement que dans Bully, il y a Uli, et en fait, on ne parle que de lui parce qu'il est le symbole des 50 dernières années du football allemand.
Et toi, est-ce que c'est quelqu'un que tu admires comme personne, Polo?
C'est plus que j'admire, malgré des divergences, on va dire, politiques, c'est quelqu'un avec qui j'aurais, si tu veux, toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des patrons comme ça, qui étaient au-dessus des autres, et moi, je l'admire parce que je vois ce qu'il a fait, je vois son bilan, il a tout créé, en fait. Lorsqu'il rentre au poste de manager, donc en 79, au sein du Bayern Munich, n'oublions pas que le Bayern est en crise financière terrible, on est en football des années 70, le Bayern n'arrive à s'en sortir que parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, il multiplie en 30 ans de par 50 le chiffre d'affaires. Il amène Adidas. Il y a des relations extraordinaires entre Adidas et le Bayern Munich. C'est lui qui prépare tout. Il y a sa célèbre phrase.
Mais comment il devient homme d'affaires? Parce qu'il n'a pas la formation pour être homme d'affaires. Parce que c'est aussi un homme d'affaires, hein, quand même.
Ouais,
faut le dire.
Alors oui, mais en fait, si tu veux, déjà, lorsqu'il est en équipe nationale, c'est lui le patron, en fait. Il a une relation très particulière avec Paul Breitner. Ils ont, c'est son camarade de chambrée, etc. Enfin, de chambre, en tout cas, pas de chambrée, parce qu'ils sont pas à la guerre. Mais si tu veux, c'est lui qui négocie les primes. On parle toujours de Beckenbauer, des autres, Zettmeyer. Et en fait, par rapport aux Lyonnais, ils étaient en dessous. Parce que c'est quelqu'un qui est au-dessus. On appelle ça aussi un Querdenker en Allemagne. C'est quelqu'un qui est un rebelle, mais rebelle au sens anticonformiste, au sens noble. C'est-à-dire, c'est toi qui aimes le cinéma, Daniel, tu sais, c'est 1949, le film de King Vidor, le rebelle. C'est-à-dire celui qui est en avance sur les autres à une époque donnée. Mmh. En 1978, il y a un documentaire en Allemagne extraordinaire. Faites-moi penser à vous parler d'Adidas 30 secondes, parce que c'est très important à mon avis. En 78, sort sous le manteau un documentaire extraordinaire en Allemagne qui s'appelle Paul und Uli, donc c'est Paul Breitner et Uli Hoeneß, qui s'appelle Professionnel, Profis en allemand, et qui montre vous pouvez d'ailleurs le trouver sur YouTube, la qualité est pas terrible, mais en tout cas pour ceux qui, malheureusement, c'est en allemand, et dedans, il y a un moment, donc c'est pris sous le manteau, etc., et un moment, vous savez, à la fin de la saison, il annonce sa retraite anticipée parce qu'il est blessé, il est forcé d'arrêter sa retraite, et là il y a tous ses copains, ses joueurs, et là il annonce ce qui va se passer dans le football, c'est que il dit à ses copains, ses joueurs du Bayern: vous savez très bien que c'est fini les relations qu'on va avoir entre nous. On n'est plus des amateurs. Ils sont là. C'est le marketing, la finance qui arrive dans le monde du football. Ils sont là. Ils sont tous en train de frapper à la porte. Et donc, ils le voient avant tout le monde. Et c'est ça pour moi qui est Uli Hoeneß. C'est quelqu'un qui a toujours été visionnaire. C'est ce que dit Jupp Heynckes par rapport à lui. Il a toujours un coup d'avance sur tout le monde. Il prévoit ce qui se passe. À tel point que dans les années 70, alors qu'il n'est que joueur et que le marketing ou le sponsoring dans les clubs est encore relativement peu développé, il est copain avec Adidasler, donc le fondateur d'Adidas, à tel point que Adidasler envisage de marier l'une de ses filles avec Uli Hoeneß. Donc, donc, si vous voulez, le côté homme d'affaires.
Il l'a fait ou pas? Il l'a pas marié, la fille?
Non, il l'a pas marié. Il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Il a sa femme. Et c'est d'ailleurs sa femme, d'Adidasler. On l'oublie, mais elle a amené le café à l'entraînement. Donc, on est complètement changé d'époque.
Ah oui, effectivement.
Donc, l'histoire de l'homme d'affaires, si tu veux. Il est aussi dedans. C'est-à-dire qu'il a toujours été à ce niveau-là. Et lorsqu'on lui offre le poste de manager, il doit créer un nouveau Bayern, il doit trouver un modèle économique, et il sort cette célèbre phrase qui va faire toute sa carrière: nous ne dépenserons pas l'argent que nous n'avons pas. Et ça, si tu veux, c'est le mythe d'Uli Hoeneß. C'est pour ça qu'il est en décalage, aujourd'hui peut-être en décalage en retard.
Est-ce qu'on craint l'après Uli Hoeneß au Bayern? Sincèrement. Ou alors il a tellement marqué de son empreinte le club qu'il y aura une continuité forcément?
Si tu veux, bon, déjà il y a un peu d'arnaque vendredi lorsqu'on dit qu'il va abandonner la présidence, parce qu'en fait il reste au conseil quand même.
Donc on parle de ça, en fait il reste.
Ouais. Le département, ce qu'on appelle, en même ce que la presse a, le département attaque. Alors le département attaque, si vous voulez, c'est dès que Uli Hoeneß ouvre la bouche pour sortir la sulfateuse contre tout le monde, elle sera toujours là. N'oublions pas, par exemple, que l'actuel entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, est un homme d'Uli Hoeneß. Que l'assistant d'Hansi Flick aujourd'hui, l'ancien 65 ans, Hermann Gerland, est un homme d'Uli Hoeneß. Donc ils savent exactement, il va encore savoir tout ce qui se passe dans le vestiaire. Lorsqu'on parle de quel coach va arriver demain, c'est lui qui va tout savoir, en fait. Comme d'habitude, on a envie de dire, il est au courant de tout. Ce week-end, il s'est passé un truc extraordinaire. Il y avait une émission que j'adore en Allemagne, après l'After évidemment, qui s'appelle Doppelpass. Il y a tous les journalistes qui sont là, il y a des anciens internationaux, etc. Ils discutent et ils allument à Salihamidzic, l'actuel directeur sportif. Et qui c'est qui appelle? C'est Uli Hoeneß. Et il te met une salve, il t'allume tout le monde, mais d'une façon assez extraordinaire. Et on lui propose, et Thomas Elmer, l'ancien joueur du Bayern, lui propose de venir la semaine d'après en plateau. Et il répond: ben, ça dépend de la qualité des personnes que j'ai en face de moi. Tu vois, c'est tout est comme ça.
C'est un mec qui peut être dur, mais il a des ennemis ou quand même.
Il a des ennemis terribles.
Ouais, mais comme tu dis que c'est un mec qui a tout réussi, alors ses ennemis se basent sur quoi, en fait?
Il avait le fisc comme ennemi également. Non, mais on peut le rappeler quand même, il a fait quelques semaines en prison, ce garçon, ce monsieur, qu'on respecte sportivement, mais après il a reconnu, il s'est excusé, évasion fiscale 2013, derrière les barreaux. C'était ma plus grande erreur. J'ai pas payé mes impôts, effectivement, je le regrette profondément, c'est ce qu'il avait dit.
Ouais, enfin, si tu veux, ça, en fait, par rapport à sa carrière, quand on fait le bilan aujourd'hui en Allemagne, c'est rien, en fait. Si, c'est une tâche, évidemment,
ça existe.
Ça existe. En fait, ce qui s'est passé, Daniel, et tu connais, toi, tu défends souvent cette thèse-là, et je suis d'accord avec toi, c'est que, évidemment, comme c'est un homme de droite, il vote CDU, etc. Tu sais ce que représente la CSU en Bavière, etc. Toute la presse de gauche l'allume. C'est pas compliqué. Tous ceux qui ne l'aiment pas, la jalousie de l'homme qui a réussi, etc., elle est très classique. L'autre, c'est dans le monde du sport, évidemment. Il a des haines, évidemment, avec Christophe Daum. Christophe Daum, pour ceux qui ont moins de 20 ans.
Christophe Daum, il existe encore dans le foot allemand?
Ben non, mais il n'existe plus justement parce qu'il y a Uli Hoeneß. Il l'a tué, c'est-à-dire que il y a eu cette fameuse prise de bec. Quoi. À l'époque, il y avait Jupp Heynckes, entraîneur du Bayern, Uli Hoeneß et Christophe Daum en 1989. Il y a une engueulade monumentale sur un plateau de télévision allemande, et tu as Uli Hoeneß qui lui fait comprendre qu'il est mort, quoi. Et comme par hasard, en 2000, vous rappelez, Christophe Daum devait devenir sélectionneur de la sélection allemande, hein. Et c'est là que sort l'affaire de la cocaïne. C'est-à-dire qu'il a, c'est le mec, bon, il est un peu spécial, Christophe Daum, quoi.
C'est carrément, il lui a planqué la coque sur lui, ou quoi?
Mais si tu veux, c'est lui qui a sorti, c'est lui, en fait, on suit Baudor, parce qu'on n'a pas les preuves formelles, mais on sait très bien que c'est lui qui est derrière pour avoir fait sortir cette affaire-là au bon moment. Et donc, il est mort, Christophe Daum, à partir de ce moment-là. Donc, toutes ces choses-là sont importantes. Mais si tu veux, tous les ennemis du Bayern, en fait, c'est ceux qui se dressent devant la puissance du Bayern Munich. Ça peut être Hoffenheim pendant un moment. Ça peut être donc il va attaquer les milliardaires sur l'argent facile. Ça peut être au niveau international ces dernières années, le PSG avec le Qatar ou évidemment Manchester City. Il a, parce que Simone est là, il a allumé évidemment les deux clubs milanais il y a un peu plus d'une semaine en leur faisant comprendre. Vous voyez bien que tous ces clubs là qui ont fait que de la dette et qui sont incapables de gérer correctement leur club, on voit où en sont les deux clubs milanais. Tu peux dire qu'il est dans l'outrance, mais c'est ça où Lyonnais, c'est à dire qu'il représente. Tu me l'avais dit il y a quelques années, c'est l'allemand moyen, mais sauf qu'il est super intelligent. Il est au-dessus de la moyenne.
Voilà pour Uli Hoeneß. Puisqu'on parle du Bayern rapidement, je ne sais pas ce qu'elle vaut cette une de Bild, hein, un quotidien allemand bien sûr, avec Pep Guardiola en une. Journal selon lequel Bayern.
Je pensais qu'on le regrettait pas.
Voudrait absolument faire revenir ça. Pep Guardiola.
Alors. En 2016, si vous voulez, ça s'est pas bien fini entre Pep Guardiola et le Bayern, parce que le Bayern a été, en fait, extrêmement surpris que Pep Guardiola ne prolonge pas à nouveau pour 3 ans. Là, je pense qu'il voit une opportunité de marché, comme on dit, c'est-à-dire que Pep Guardiola, c'est un peu compliqué pour lui à Manchester City, et peut-être qu'ils vont tout faire pour le faire revenir, mais attention, parce que Pep Guardiola, ce que tout le monde oublie lorsqu'il arrive en 2013, c'est pas que l'entraîneur, à mon avis, le meilleur de sa génération qui est là, c'est quelqu'un qui amène avec lui des sponsors. Et là, le Bayern, si tu veux, t'as le tiroir caisse qui fonctionne tout seul, quoi. Et le Bayern Munich, lorsque Guardiola arrive, si tu veux, t'as des sponsors internationaux, il y a l'internationalisation du Bayern Munich, et donc c'est des choix stratégiques qui doivent être faits par la nouvelle direction, symbolisée évidemment par Karl-Heinz Rummenigge, puis en 2021 par Oliver Kahn. Mais toutes ces choses-là, si tu veux, ne sont pas neutres. Le Guardiola au Bayern, ce n'est pas qu'une question du meilleur entraîneur actuel.
Mais dans ces cas-là, pourquoi ils font pas tout pour avoir Klopp, qui est allemand, qui doit forcément dans un coin de sa tête un peu
rester du Bayern, un jour, oui, ça arrive.
Qui, s'il est champion cette année avec Liverpool, aura tout fait là-bas.
Je ne dis pas que Klopp sera. Moi d'ailleurs, j'ai posé la question à Julien Laurence lundi. Hein, j'ai dit, mais est-ce que Klopp, il pourrait pas lâcher Liverpool en cas de titre à la fin de la saison?
Bah ouais.
Et évidemment que Klopp est prévu, mais il y en a d'autres. Il y a Nagelsmann. Mais si tu veux, au niveau de star international dans les pays Non, mais c'est une star aussi, mais il est beaucoup plus européen que mondialisé, que globalisé, pardon.
Ah oui.
Et Guardiola, il est au-dessus. Il y a tous les réseaux aussi, il y a la façon de jouer. Encore une fois, c'est des choix stratégiques à faire. N'oublions pas qu'il y a 3 actionnaires très, très importants au Bayern qui s'appellent Adidas, Audi et Allianz, donc les assurances. Et il y a des rumeurs comme quoi ils vont mettre l'argent sur la table, quoi.
Merci, Polo.
Okay. Merci, messieurs.
Excellente soirée à toi, bien sûr. Simone, à ton tour. Simone Rovere en Italie, bien sûr. Simone, on voulait évoquer deux sujets avec toi. On va peut-être commencer par Ronaldo. Ça a beaucoup fait parler ces derniers jours, effectivement. On rappelle qu'il a quitté le stade lors du match contre Milan, alors qu'il a été remplacé et avant la fin du match. Comment on gère ça à la Juve pour l'instant? Parce qu'il n'y aura pas de sanctions financières.
Donc, on dégonfle l'affaire. Hein.
Bah, alors, oui, il y a deux choses à examiner. Une l'a dit justement Daniel, la gestion médiatique, où on dirait que tout était fait, tout était pardonné. Les suiveurs du vestiaire ont presque déjà excusé Cristiano, qui est un exemple, qui est l'homme à suivre. Donc, ça sort tout ça sur les journaux, et même sur les télés, on parle que du fait que la Juve n'a pas pris des sanctions, mais en vrai, c'est peut-être la bonne solution.
Est-ce que c'est Ronaldo... critiqué un peu? Est-ce qu'on dit, ouais, pour d'autres, il y a eu sanctions, mais pour Ronaldo, il n'y aura pas? Est-ce que c'est évoqué, ça?
Non, parce que dans les passés un peu plus récents, on peut dire les seuls qui avaient fait une geste comme ça, c'était Andrea Pirlo en 2013. À l'époque, il n'y avait pas un règlement antérieur à la Juve qui pouvait permettre de sanctionner un joueur pour être rentré au vestiaire. Ceux qui avaient inventé ces règlements, c'était Antonio Conte, qui l'avait dit quelques jours après en disant à partir d'aujourd'hui, il y aura un règlement. On peut pas sanctionner Pirlo, on va pas les sanctionner parce qu'il y avait pas. À partir d'aujourd'hui, un joueur, pour ne pas s'asseoir sur les bancs de touche, regarder tous les matchs quand il est remplacé, il peut le faire à une seule condition. Il a une jambe cassée, il doit rentrer avec les médecins dans le vestiaire. Sinon, il doit payer une amende et reste un mois sans jouer.
Ouais, donc il y a pas d'amende.
Pour ça, c'était la règle Conte. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y aurait pas d'amende. Ouais. On a demandé. La Juve a fait comprendre qu'il y aura un rendez-vous dans les vestiaires et devra parler avec les coéquipiers. Et ce qui sort dans la presse, c'est que quand même les coéquipiers vont l'excuser en disant que bon, ils ont compris que c'est un mot d'humeur, que c'était presque normal. Certains joueurs comme Chesney qui est passé en zone mix après les matchs avaient déjà commencé à dire oui, mais c'est parce que peut-être il est pas bon, il est un peu blessé, il va pas très bien. Après, même cette vérité, ça va être mis un peu à côté parce que s'il est un peu blessé, s'il ne va pas au 100%, quand même, il ne devrait pas jouer tous les deux matchs face avec le Portugal et apparemment, il va les jouer. Donc, il y a, comment dire, une information un peu guidée pour moi par la Juve qui est très très bonne dans ses métiers, dans ses travaux à faire sortir ce qu'elle veut qu'elle sorte.
C'est-à-dire, tu crois que c'est délibéré quoi.
Bah, je pense que la Juve, la Juve entre guillemets exceptionnelle dans ça, a toujours été les clubs qui savaient gérer bien ses relations avec la presse.
Si avec Rabiot avait fait ça à la Juve,
bah, ça serait pas passé pareil.
La Juve, il aurait été sanctionné.
Ronaldo est aujourd'hui plus grand que beaucoup de clubs et même la Juve qui a toujours eu une discipline assez rigoureuse.
Je pense que
Ronaldo, il est très
tu as 100% raison
même en termes de business.
Oui, mais après il faut pas non plus il a fait une erreur, je pense que c'est le premier
à mettre en prison bien sûr.
Voilà, c'est ça, c'est l'idée. Que ça soit Ronaldo ou un autre, bon en l'occurrence c'est Ronaldo, mais si ça avait été un autre, je pense que ça aurait été exactement pareil. Ils n'auraient pas coupé la tête, même si c'était un joueur qui est remplaçant aujourd'hui ou moins important comme peut l'être Ronaldo dans cette équipe. En termes d'aura déjà, je pense que de toute façon c'est une erreur. Il va s'en expliquer, il va s'excuser parce que peut-être qu'il a il a été loin. Du moins c'est par rapport à ses coéquipiers, parce que par rapport à son entraîneur, ça montre quand même quand t'es capable de sortir les mots qu'il a sortis pour montrer son mécontentement. C'est qu'il y a,
des frictions.
Ben oui, tout n'est pas nickel, la relation entre Sarri et Ronaldo. Même si depuis le début de l'année il joue, mais il est moins performant, il y a de la frustration. On en a parlé déjà. De toute façon, je pense que Ronaldo est un grand professionnel. De toute façon, il le montre et c'est pour ça qu'il en est arrivé là. Mais aujourd'hui, peut-être que aussi il estime que Sarri est fautif dans la façon dont il s'exprime sur le terrain. Et cette frustration, il l'a sortie.
Il l'a exprimé le week-end dernier.
Et ouais, donc maladroitement, oui, il y aura une explication. Mais le plus important, c'est pas avec le groupe. Parce qu'il a des potes, en plus c'est un bon mec dans un groupe Ronaldo, donc il n'y aura pas de soucis, les joueurs ils vont accepter, et puis ils n'ont même pas besoin d'avoir des excuses, ce que je veux dire, les joueurs ils se disent pas, oh, Ronaldo il pense qu'à sa gueule, Ronaldo il n'en a rien à foutre de nous, il sort à 0-0, on gagne 1-0, il est déjà chez lui, il s'en fout qu'on gagne, qu'on perde, non ils ne sont pas dans ce trip là, par contre avec Sarri, il va falloir qu'il y ait un échange, ça c'est sûr, il faut que ça s'arrange, et surtout que ça ne se répète pas.
Après ce qui pose problème c'est si un autre fait la même chose.
Là, ils ne peuvent plus sanctionner un mec qui fait la même chose, toujours pareil.
Moi, j'avais une discussion là-dessus avec Didier Deschamps à l'époque. Okay.
Non, mais
vas-y,
fini. Tu dis ok, ça t'intéresse ou ça t'intéresse
pas ? On me parle, vas-y, fini.
Ouais, j'en ai rien à faire, moi, qu'on te parle. Je te dis juste que Didier Deschamps m'avait dit, j'étais jeune et j'avais eu des mots durs envers Didier aussi parce qu'il m'avait sorti d'un match où j'étais pas bon. Et un entraîneur peut accepter une fois une erreur. Il n'y a pas de problème. Ouais. Le tout, c'est d'en parler. Par contre, tu ne recommets pas deux fois la même erreur. Oui. La deuxième fois, ce n'est plus une erreur.
Sanction.
Et là, c'est plus grave. Donc, là, l'essentiel, c'est qu'il se parle avec Sarri et qu'il soit au moins sur la même longueur d'onde de ce côté-là. Mais ça, on ne peut pas le savoir. On n'est pas dans la tête de Ronaldo, on n'est pas dans la tête de Sarri.
On peut mentir mille fois à une personne, ou une fois à mille personnes.
Vas-y.
Merci Jérôme. Simone, reste avec nous. On va parler du Napoli dans un instant avec toi. Il reste encore un gros quart d'heure dans l'after. Okay. Toujours avec Daniel Riolo, Jérôme Roten et Raphaël Cosmidis. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là. On peut tromper mille personnes une fois. Non. On peut tromper une fois mille personnes, Odile. Mais on ne peut pas tromper une fois mille personnes.
Ok, allez, à demain.
Visiblement, Jérôme n'a pas la référence. Si, j'ai la référence, mais c'est toi, tu t'embrouilles. Mais j'ai fait exprès. Non, j'ai fait ça.
Mais les gars, mais c'est ça le jeu dans la cité de la peur. Oui, le mec ne sait jamais sortir la formule en fait.
Ah, c'était acteur. Ah ouais, putain, bravo.
Acteur, je répète, une scène mythique d'un film mythique.
C'est toi qui a quand même une vocation.
Mais Franck Leboeuf t'a jamais proposé un rôle. Mais j'ai fait 4 ans de théâtre.
Il fait de la télé, mais il aimerait brûler les planches.
C'est ça, je suis un acteur raté.
Tu le vois avec une robe là et tout. Toi en plus,
c'est une toge.
Toi, c'est du Hamlet qu'il te faut.
C'est ça, non, mais c'est vrai que je te soupçonne d'essayer de changer quelque chose pour.
En anglais. Ouais, en plus, il jouera en anglais. Jérôme, il le jouera en anglais, Shakespeare, évidemment.
Non, mais c'est vrai, il change sa façon de présenter.
C'est vrai, c'est naturel. Si,
peut-être qu'il se passe des choses sympas dans ma vie aussi. Tu
sais. C'est tout côté acteur.
Ça m'intéresse.
Allez, on avance.
Vas-y.
Simonet est toujours là.
On peut parler un peu cœur, côté cœur.
Semaine, évidemment que c'est sympa dans sa vie.
Simonet est avec nous. Simonet.
Sur les réseaux.
Non, pas du tout.
Je suis là, mais je suis
du bruit du nature.
Et Jérôme, depuis qu'il présente l'after, les ouvertures, il en a eu un paquet.
Allez, Simonet.
Parce que Simonet, ça peut l'intéresser.
Le Napoli, c'est le bordel à Naples.
Ça m'intéresse beaucoup.
Très clairement, c'est le bordel à Naples. On rappelle l'histoire, mutinerie, après le nul contre Salzbourg avec des champions. De Laurentiis dit mise au vert pendant 4 jours. Les joueurs refusent.
Bon, son fils descend dans, et Ancelotti se fait
descend
virer.
Dans la vestiaire. Et puis voilà. C'est la guerre. Au milieu, Ancelotti.
Alors pas une défaite aujourd'hui. Ancelotti va passer tranquillement la trêve, c'est-à-dire c'est lui-même qui est en train de chercher de remettre les choses en place entre les présidents et les joueurs. La vérité est qu'Ancelotti risque un peu si jamais il y a une crise qui continue et donc si Napoli par hasard n'arrivera pas à se qualifier pour les huitièmes de Ligue des Champions, là ce serait vraiment peut-être la fin pour Carlo Ancelotti, qu'en Italie on évoque déjà pour un avenir au Milan la saison prochaine. Mais ça c'est un discours un peu d'avenir.
Mais dis-moi, Simone, dans l'histoire qu'il y a eu, donc les joueurs, le président, il faut peut-être dire quelle a été la position, et c'est très important à Naples, du peuple napolitain. Les supporters de Naples, dis-moi si je me trompe, mais ont été du côté de Laurentiis, hein.
Oui et non, c'est-à-dire les seuls face à qui ils ont eu aucune polémique, c'est Carlo Ancelotti. Les supporters, ils ont une guerre ouverte depuis quelques années avec De Laurentiis, qui ça continue. C'est vrai que dans cette situation, et donc ils ont continué, même il y a eu un entraînement ouvert que pour les abonnés. Alors il y a eu un entraînement ouvert que pour les abonnés mercredi. Mercredi c'était le match, c'était jeudi. Jeudi, il y avait cet entraînement ouvert que pour les abonnés, 9000 abonnés invités, on peut dire, ils sont allés en 500 au stade San Paolo, et tous les joueurs ont été sifflés, houés, insultés. Par contre, dehors du stade, il y a eu les groupes de supporters organisés qui ont fait une manifestation contre De Laurentiis. Donc, il y a eu un peu les deux.
Donc, ils en voulaient aux joueurs, parce que quand j'ai vu qu'ils s'en prenaient aux joueurs en disant vous nous manquez de respect et tout, du coup, je me suis dit ils soutiennent le fait que ces mecs-là n'aient pas écouté les consignes de De Laurentiis, donc ils soutenaient De Laurentiis. Mais non.
De Laurentiis, c'est un peu a priori. De Laurentiis, c'est un peu a priori. C'est toujours contesté sur cette situation. C'est vrai que les fautifs par les supporters sont considérés plus les joueurs, mais les présidents n'est pas aimé.
D'accord.
Les présidents n'est pas aimé, donc
pourtant sans lui, il n'y a plus
années.
Rien. C'est lui, le club est en perdition quand il est arrivé. C'est un peu dur.
C'est vrai, mais une des fautes reprochées à De Laurentiis, surtout sur ces dernières saisons, c'est son engagement avec le Bari Calcio. Donc, quand il a racheté aussi un autre club du sud, comme Bari, et il a développé un peu les projets.
Il a mis moins d'argent à Naples. Il lui reproche ça.
Aujourd'hui, Paris est en quatrième division, donc tu vas pas mettre énormément d'argent et tu prends des investissements que tu fais à Paris et tous les sortes de Naples. Mais c'est un peu un sort de désamour pourquoi quand tu es à Naples, tu vas prendre Bari. Ouais, c'est aussi ça. Après, dans les années, ils ont toujours demandé de faire un gros, gros coup. Ils rêvaient les retours de Cavani. Cet été, Ancelotti demandait James Rodriguez. Il n'est pas arrivé parce que De Laurentiis ne voulait pas payer la somme demandée par le Real Madrid. Après, il allait prendre Lozano, qui était coûté quand même 40 millions. C'est un peu un désamour entre les supporters et ses présidents, ouais. Pas un désamour entre les supporters et Naples. La situation devient un peu compliquée encore parce qu'il y a, vous savez, Naples c'est une ville qui vit le football et chaque petite bruit devient une vraie grosse histoire. Presque, ouais. Il y a des fake news ou quand même des histoires qui sortent tout le temps. La vérité de ces derniers jours, c'est que certaines femmes des joueurs ont quitté la ville avec les rendez-vous de leur mari avec la sélection. La femme de Zielinski qui avait dont la voiture était cambriolée quelques jours après cette situation, cette grève, cette mutinerie, est partie en Pologne avec son mari. La femme de Alan est
alors menacée à Naples.
Bah écoute, il y a eu deux événements criminels qui ont été victimes des joueurs. La police enquête. Pour l'instant, elle sort chaque hypothèse de liaison entre ce que s'est passé à ces joueurs. Alan a été cambriolé dans sa ville, dans sa maison, dans sa villa à Naples. Oui. Pendant qu'il était dans la maison, il a découvert ça.
Ouais, bon, sale ambiance, quoi. Là, c'est compliqué, là.
Ouais, c'est un sale ambiance.
Atmosphère très lourde.
Et la voiture de Zielinski a été cambriolée. Donc, les enquêteurs sont en train de chercher de comprendre s'il y a une liaison. Apparemment, non. Mais certaines femmes des joueurs sont parties de leur domicile.
Il paraît que De Laurentiis veut faire le ménage, du coup. Il y a des cadres dont il veut se séparer. Est-ce que Alan au PSG cet hiver, c'est possible?
Ah, bah,
Alain, c'est une des joueurs qui va partir. Pour l'instant, De Laurentiis a fait comprendre qu'il veut garder tous pour janvier. Ça dépend beaucoup de ce que ça passe en Ligue des Champions. Parce que quand même, si Naples arrive à se qualifier finalement pour les huitièmes de finale, ce serait absurde de faire les gros ménages en janvier.
Okay.
Mais il y a quatre joueurs qui devraient partir. Caléon et Mertens qui sont en fin de contrat.
Ouais,
Alain et Insigné, qui est le capitaine, mais qui est aussi un peu les joueurs les plus ciblés par les supporters, et qui c'est les joueurs que Carlo Ancelotti voulait faire partir déjà cet été.
D'accord. Merci Simonet, excellente soirée à toi.
Ciao.
Merci à toi, Simonet, excellente soirée. Merci Raphaël Gosmidis pour le livre L'Odyssée du 10. Merci Jérôme.
Merci Raphaël,
à demain.
De toi, on n'a pas fait le quiz.
C'est pas à cause de toi, c'est toi qui as fait 3 minutes de monologue.
Non, excuse-moi, j'ai pas parlé du tout la dernière
fois. Merci Daniel. Tiens, à la retraite, Gad Elmaleh prend sa retraite. Ricardo Montolivo, c'est fini. Carrière, le KKC de Gad Elmaleh. Bonne soirée à tous.
Montolivo.
Deux places pour France Moldavie pour Walid qui nous a appelé tout à l'heure. Walid, à cause du quiz qu'on n'a pas pu faire à cause de Jérôme. À demain.
Il était où, Montolivo?
À demain, au Milan encore. Bye.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
At the Bank of Antandek, mortgages are on the menu.
I was in the chippy last night and it hit me.
Go on.
We should give all our new mortgage customers £1,000. Of spuds.
Potatoes.
Yeah, jackets, roasties, dolphin wars. I mean, what's not to love?
Hey, yeah, we could call it
Mashback. Genius.
Meanwhile, at Santander, they're giving their customers £1,000 cash back on selected first-time buyer mortgages. See what's possible at Santander.
Lending subject to status and criteria. Cashback given on completion and repayable if mortgage closed within 2 years. Offer can be withdrawn. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.